Vous écoutez le journal du pharmacien et nous vous proposons ici une retransmission audio de la conférence du 16 mars 2023 sur les possibilités après des études de pharmacie dispensées à la faculté de Paris-Saclay. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette conférence au format vidéo directement sur notre chaîne YouTube. Bonne écoute!
Bonjour à tous. Vous écoutez le journal du pharmacien, le podcast qui donne la parole aux pharmaciens et qui a pour but de mettre de la lumière sur ce merveilleux métier aux possibilités infinies. Le journal du pharmacien, c'est aussi une chaîne YouTube. Pour suivre les aventures du journal du pharmacien en Tour de France, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Au programme, les pharmatours des 24 facs de pharmacie de France, des interviews exclusives et de merveilleuses images de notre terroir français. Je n'en dis pas plus et laisse place à votre épisode.
Vous êtes content d'être en pharma déjà? Ok, bah, je pense que déjà après cette présentation, vous serez convaincu que vous êtes dans les meilleures études du monde. Donc déjà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Chloé Mahé, j'étais à P11 comme vous il n'y a pas si longtemps. Donc je viens de la filière industrie, mais aujourd'hui j'exerce en officine. Et donc je vais vous parler déjà pour commencer des débouchés dans la pharmacie. Et pour ce faire, je me base sur le cycle de vie du médicament. Parce que vous allez voir que partout où il y a un médicament, il y a un pharmacien, mais pas que. Donc, on va se baser sur le cycle de vie du médicament pour parler des débouchés dans la pharmacie. Alors, la première étape du cycle de vie du médicament, c'est la recherche et le développement. Donc là, je vais essayer de ne pas trop vous bombarder d'infos. Donc, je vais parler qu'un seul type de recherche, mais si vous avez d'autres questions, on pourra développer après par la suite. Donc, la recherche dans le cadre du médicament, en gros, le but, ça va être de découvrir un candidat médicament. Et donc là, en fait, pour trouver un candidat médicament, les chercheurs, ils vont utiliser ce qu'on appelle des pharmacothèques. Donc, c'est des bibliothèques de médicaments. Et donc, en fait, c'est un travail de modélisation. Donc, ils vont avoir une pharmacothèque de, par exemple, 1000 molécules qui sont modélisées en 3D. Et ils vont les faire réagir avec un substrat. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, un substrat, mais en gros, c'est par exemple un récepteur du corps humain. Donc, ils vont utiliser par exemple le récepteur nicotinique du cerveau. Ils vont prendre leur bibliothèque de molécules en 3D, ils vont la faire réagir avec le substrat en 3D. Donc, en gros, c'est beaucoup de modélisation 3D. Et après, il y a aussi une partie à la recherche, enfin, de recherche où on est vraiment en labo, où l'idée, ça va être d'optimiser ce candidat médicament. Et d'améliorer en fait les pharmacophores, donc c'est des modèles en fait qu'on retrouve et des structures qu'on retrouve au niveau de la molécule. Ils vont essayer de les améliorer pour améliorer les interactions et pour trouver le meilleur candidat médicament. Donc il faut savoir qu'au début il y a 10 000 candidats médicaments et au final il y en a qu'un seul qui arrive sur le marché. Donc il y a énormément d'investissement qui est fait en R&D. Donc voilà, donc là on va rester là-dessus et puis après si vous avez des questions on développera. Une fois que ça c'est fait, on va faire les essais précliniques. Donc ça, c'est de la recherche en fait. La recherche préclinique, c'est sur les animaux. Donc là, bon, c'est une petite souris. Parce que vous vous doutez qu'en fait, on ne va pas tester le médicament, la molécule directement sur les humains. On fait d'abord un crash test sur les animaux. Et donc là, le but, ça va être de trouver la dose non toxique. Parce que du coup, il faut trouver la dose qu'on va pouvoir administrer à l'homme sans toxicité. De prédire, commencer à prédire l'efficacité. Et la sécurité du médicament. Donc là, en tant que pharmacien, c'est beaucoup des pharmaciens en fait qui font ces tests-là, les essais précliniques. Et par exemple, le doyen qui est toxicologue, lui, il va être dans cette phase de la recherche. Et donc là, c'est vraiment, enfin, vous êtes vraiment en laboratoire, quoi. Donc si vous aimez bien un peu le terrain, la recherche, ça peut vraiment être pas mal. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les essais cliniques. Et donc là, en fait, c'est vraiment la recherche sur l'être humain. Donc là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il y a plusieurs phases. Il y a la phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Donc, je ne vais pas tout développer ici, parce que sinon, je pense que ça va trop vous bombarder d'informations. Mais du coup, là, ça va être les essais sur l'homme. Et là, on va tester aussi la qualité, la sécurité et l'efficacité, enfin, qui a déjà commencé à être étudiée en préclinique. Mais vous entendrez beaucoup QSE, enfin, qualité, sécurité, efficacité. C'est les trois conditions pour qu'un médicament soit mis sur le marché. Donc ça, vous allez l'entendre tout au long de vos études. Et donc là, en tant que pharmacien, vous n'allez pas être dans l'opérationnel. Donc l'opérationnel, c'est en gros, c'est le médecin qui fait l'opérationnel. Nous, en tant que pharmacien, on va pas avoir cette action-là sur le patient, en gros. C'est le médecin qui va faire la recherche, c'est le médecin qui va administrer la molécule aux êtres humains. Et nous, en tant que pharmacien, le rôle, ça va plus être de la coordination et du management. Donc, si vous travaillez en industrie pharma aux essais cliniques, ça sera votre rôle aussi de construire l'essai clinique, parce que comme je vous ai dit, il y a des phases, etc. Donc, c'est vous. Ça va être beaucoup de statistiques, en fait. Choisir combien il y a de patients dans chaque groupe test, construire l'essai clinique, choisir aussi les médecins qui vont faire les essais cliniques et dans quels, parce qu'en général, c'est dans des CHU, et quels CHU vont pratiquer les essais. Donc, c'est ça, en fait. C'est un rôle d'organisation, de management et aussi la gestion du produit, en fait. S'assurer que le produit va être amené dans les centres d'essais. Vous allez voir aussi, en tant que pharmacien, notre rôle, c'est d'assurer la sécurité du médicament, le bon usage et l'approvisionnement. Ensuite, une fois que ça s'est fait, vous allez passer aux affaires réglementaires. Donc là, le but de ce service, c'est d'aller chercher l'AMM. Donc c'est l'autorisation de mise sur le marché. Donc comme je vous disais, un médicament, il ne peut pas arriver sur le marché s'il n'a pas d'AMM en fait. Et donc vous allez avoir des cours, vous verrez, mais en gros, il y a des autorisations françaises, mais en général, c'est plus des autorisations européennes en fait. On va avoir une autorisation européenne qui va permettre de mettre la molécule sur le marché européen. Et donc en fait, pour avoir une AMM, c'est les affaires réglementaires qui montent un dossier. Donc là, c'est un métier qui est vraiment très, très administratif. Hein. Donc le but, en fait, c'est de construire un dossier dans lequel on va reprendre les données des phases d'avant, donc préclinique, clinique, et de prouver, en fait, la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament. Et si le médicament, il est QSE, en fait, si on peut prouver qu'il y a une efficacité, que qualité, efficacité, sécurité, là, il aura son AMM. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais vous voyez. Donc là, c'est très administratif. Donc si vous n'aimez pas l'administratif, ce n'est pas dans cette voie-là qu'il faut s'engager, quoi. Il y a d'autres rôles aussi en affaires réglementaires, mais pareil, si vous voulez, on pourra développer après. Une fois qu'on a l'autorisation de mise sur le marché, on va passer à la production, à la qualité. Donc là, voilà, je vous fais ça en cycle, mais il y a des étapes qui sont concomitantes. Hein. Donc la production et la qualité, comme son nom l'indique, l'idée, ça va être de produire le médicament, en fait, de façon industrialisée. Donc là, ça va être comme une chaîne de production de voitures, en fait. Vous allez avoir différentes étapes avec des machines. Et pareil, là, et des contrôles qualité aussi, des contrôles qualité à chaque étape. Et donc là, en tant que pharmacien, c'est pareil, c'est plus du management, en fait. C'est pas le pharmacien qui va être sur les machines, en fait. Lui, il va contrôler que tout se passe bien, en fait. C'est des techniciens qui vont manipuler les machines. Vous, en tant que pharmacien, vous allez plus être manager et manager des équipes. Donc ça aussi, c'est ça que vous allez voir, c'est qu'en tant que pharmacien, on est très rapidement propulsé à des postes de management, en fait. Vous êtes cadre, donc vous êtes très rapidement manager, que ce soit à l'officine, en industrie ou à l'hôpital. Donc là, voilà, rôle de management. Et aussi, c'est seulement le pharmacien qui peut libérer des lots. Donc pareil, si vous êtes en industrie pharma, ce n'est pas pareil d'exercer dans un établissement de production et de qualité, parce que vous allez voir après en industrie, il y a des labos des sites où il n'y a que de la production et de la qualité, et des sites où il va y avoir les fonctions support. Donc les fonctions support, c'est par exemple les affaires réglementaires. Et donc c'est pas pareil d'exercer dans un labo, sur un site de production ou sur un laboratoire où il n'y a que les fonctions support. Parce que sur le site de production, il y a de la libération de l'eau, il y a des lots qui partent. Donc c'est obligatoirement un pharmacien qui doit déclencher cette libération de l'eau. Et là, c'est le pharmacien responsable. Bon, là, je pense que je rentre un peu trop dans les détails. Donc, pareil, si vous avez des questions, on voit ça après. Donc, après, vous avez le market access. Et comme je vous dis, tout ça, c'est concomitant. Enfin, en fait, on va pas faire de production tant qu'on n'a pas le market. Enfin, c'est un peu concomitant, mais bon, pour faciliter, je vous mets ça en cycle comme ça. Donc, le market access, le rôle de ce département, ça va être d'aller chercher le prix et le remboursement du médicament. Et donc là, pareil, c'est très administratif. Il va y avoir des études médico-économiques pour déterminer l'intérêt du nouveau traitement, en fait. Surtout qu'en France, on a un système qui est très particulier parce que, vous savez, on a la sécurité sociale. Et donc, du coup, les... enfin c'est en fait c'est la Sécu qui paye pour les médicaments, et si un médicament il n'est pas remboursé en France en général, il va pas être utilisé quoi. Donc du coup c'est très particulier, et là pareil très administratif. Donc là il va y avoir des, comme je vous dis, des études médico-économiques, et on va comparer par exemple la différence de coût pour la société sans ou avec le médicament. Donc par exemple sans le médicament on va dépenser beaucoup plus en hospitalisation, etc. VS avec le médicament, on va pouvoir faire des économies, et donc comme ça on pourra obtenir ou pas un remboursement. Ensuite, une fois que ça s'est fait, vous avez tout ce qui est le marketing du produit. Donc là, c'est très particulier, hein, le marketing dans la pharmacie. Vous vous doutez bien, c'est hyper réglementé. On ne fait pas du marketing d'un médicament comme on fait du marketing d'une bouteille d'eau. Donc c'est vraiment très, très réglementé, de plus en plus réglementé. Et là, il y a pas mal de métiers. Il y a des métiers où vous allez être plus, par exemple, sur les éléments de communication, donc tout le matériel promotionnel, en fait, ou alors du métier un peu plus de terrain où vous allez devoir aller dans les hôpitaux, parler de la molécule auprès des médecins. Pareil, si vous voulez, on pourra développer un peu plus. Après ça, vous avez la répartition, en fait, enfin la distribution, ce qu'on appelle la répartition pharmaceutique. Donc là, en fait, le rôle de ces personnes-là, ça va être d'approvisionner en fait les pharmacies et les hôpitaux à la chaîne finale, donc qui sont l'officine et l'hôpital, où là, c'est là en fait que va avoir lieu la dispensation du médicament. Et donc ça, c'est vraiment la phase finale en fait du cycle de vie, où le médicament va arriver entre les mains du patient. Mais il faut savoir que ça continue après, parce que même après ça, il faut continuer de suivre le produit. Donc on appelle tout ce qui est, on appelle ça la vigilance et la sécurité. C'est aussi ce qu'on appelle la phase 4 des essais cliniques. Donc en fait, c'est l'étude du produit en vie réelle, en gros. On va suivre la molécule dans la vie réelle pour voir comment elle se comporte, parce que vous imaginez bien que ce n'est pas du tout pareil un essai clinique que la vie, en fait, parce que dans l'essai clinique, les conditions, elles sont contrôlées, le médicament, il est administré à telle heure, à tel patient, enfin voilà, tout est contrôlé. Donc c'est pour ça qu'on suit toujours le produit après en vie réelle. Donc voilà. Et donc là, tout ce qui est là, c'est, bon, on voit pas très bien, mais tout ça c'est de l'indus. Après, donc vous avez l'hôpital qu'on peut développer si vous voulez, l'hôpital, l'officine, et après la recherche, c'est aussi bien industrie que hôpital en fait. Ça, on peut y accéder via l'indus ou l'hôpital. Donc voilà. Est-ce que déjà là vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on développe une étape? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent faire hôpital, par exemple. Tu veux faire hôpital? Et du coup, tu sais un peu comment ça se passe ou... Ouais, c'est ça, exactement. En gros, l'hôpital, tu vas avoir deux voies, soit PH, soit BM. Et donc, en fait, pour faire la filière internat, tu es obligé de passer le concours. Je crois que c'est en cinquième année. C'est en cinquième ou sixième année le concours? C'est en cinquième année. Ouais, voilà. Donc tu passes le concours en cinquième année et après tu accèdes soit à BM, soit à PH. Et donc là, bon, bien sûr, BM c'est très dur à avoir. En PH, il y a plein de possibilités. Tu peux faire plein de choses. Tu peux t'occuper de tout ce qui est stérilisation. Donc en gros, il faut savoir déjà comment ça fonctionne à l'hôpital. En gros, à l'hôpital, on a une pharmacie à usage intérieur. Donc en gros, ça ressemble beaucoup à une officine normale, sauf qu'il n'y a pas de patients en fait, vu que les patients ils sont dans les services à l'hôpital. Donc en gros, le rôle de la PUI, c'est de gérer la sécurité du médicament, le bon usage et l'approvisionnement de tous les services. Donc c'est, sans office, sans PUI, l'hôpital ne fonctionne pas en fait, parce que tous les médicaments qui sont envoyés dans les services, ils viennent de la PUI. Et donc là, tu peux t'occuper de la stérilisation. Donc en gros, ça va être le service qui s'occupe de la stérilisation de tout le matériel chirurgical, parce que tu as du matériel chirurgical qui est réutilisable et non réutilisable. Donc la PUI s'occupe de stériliser tout le matériel chirurgical réutilisable. Et là, t'imagines, c'est une responsabilité de fou, parce que dès qu'il y a un problème, un problème bactériologique ou autre, en fait, c'est qu'il y a un problème au niveau de la chaîne de stérilisation. Donc là, gros enjeu. Donc là, pareil, en tant que pharmacien, tu vas être responsable, par exemple, de la STÉ. Et tu vas coordonner ton équipe de techniciens. Donc, tu vas avoir différents modes de stérilisation. Tu as de la stérilisation par la chaleur, aux infrarouges, etc. Donc, pareil, tu as des machines. Après, tu as la conciliation médicamenteuse. Donc ça, en général, les étudiants, c'est ce qu'ils adorent. C'est de la pharmacie clinique. Donc l'idée, ça va être de reprendre tous les traitements du patient et faire une coordination ville-hôpital. Donc c'est essayer de voir tous les traitements qu'il a eu en pharmacie de ville et essayer de coordonner les deux, en fait, de pas faire des doublons entre ce que tu vas lui prescrire à l'hôpital et en ville, et essayer d'optimiser le traitement et d'éviter la iatrogénie. Donc la iatrogénie, c'est tous les risques liés aux médicaments. Donc ça, c'est en plein développement, c'est hyper développé au Canada, je pense que vous le savez, au Canada, c'est carrément le pharmacien qui prescrit, qui est avec le médecin, mais c'est le pharmacien qui prescrit. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à ça aussi en France, par d'autres professionnels que j'ai pu interviewer, des doyens, ils me disent qu'on a à peu près 10 ans de retard sur le Canada, mais donc c'est en bonne marche, et apparemment, là où c'est le plus développé en France, c'est Grenoble et Lyon. Donc si vous voulez faire de la pharmacie clinique. Et après, voilà, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où c'est pas du tout développé. Enfin, moi, je sais que à mon hôpital, c'était pas en stage de 5, c'était pas du tout développé, la pharmacie clinique. Mais pareil, ce qui est bien à l'hôpital, c'est que si vous avez envie de porter un projet, c'est possible. En fait, si vous arrivez dans un hôpital et que vous avez envie de développer la pharmacie clinique, c'est possible. Donc c'est ça aussi qui est bien à l'hôpital, c'est qu'on peut être porteur de projet. Après, vous avez le service chimio, donc là, c'est parce que c'est la pharmacie aussi qui prépare les chimios, les produits de chimio pour les patients qui ont le cancer. Donc pareil, tu peux travailler en chimio. Donc là, tu vas délivrer des lots. Pareil, c'est le préparateur plutôt qui va préparer. Et toi, tu vas délivrer des lots et faire du contrôle qualité. Et après, sinon, la BM, là, il y a plein de choses. Hein. La BM, tu peux faire de la bactério, de la viro, de la parasito. Et donc là aussi, c'est très intéressant. C'est une filière par laquelle tu peux accéder soit par médecine, soit par pharmacie. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que pendant l'internat de biologie moléculaire, du coup, tu vas être avec des médecins aussi. Donc du coup, ça, c'est pas mal parce qu'ils n'ont pas les mêmes connaissances que nous. Enfin, tu vois, ça permet d'enrichir le parcours. Et je crois que c'est 80% des diagnostics qui sont posés par la biologie médicale, donc c'est hyper intéressant. Par contre, en tant que pharmacien, tu n'auras pas le droit de voir des patients malades. Donc en gros, par exemple, si quelqu'un vient dans un service et que... Par exemple, s'il a un parent qui a la drépanocytose et qui veut voir s'il est porteur sain ou pas, il va faire le test. Et donc toi, en tant que pharmacien, s'il est porteur sain, tu pourras le voir. Mais par contre, s'il est malade, c'est le médecin qui doit annoncer. Donc voilà, après, tu peux travailler aussi en laboratoire d'analyse privée. Donc là, tu peux voir des patients, tu peux faire des prélèvements. Donc voilà, c'est ça aussi qui est génial en tant que pharmacien, c'est que tu peux exercer dans le privé et dans le public, que ce soit à l'hôpital ou en industrie. Bon, à l'officine, du coup, c'est mixte un peu, vu qu'on deal avec la sécu, mais en soi, on est un commerce privé. Mais du coup, tu peux aussi travailler en agence, quoi. Donc là, tu peux travailler dans des laboratoires privés. Et quand tu es ici, en indus, par exemple, en affaires réglementaires, tu peux travailler pour les agences. Donc tu peux travailler pour la NSM. Tu peux travailler, mais même pas qu'en affaires réglementaires. Hein. Là, votre doyen là, qui est toxicologue, il a travaillé pour la NSM, l'OMS. Voilà, quand vous faites de la sécurité, de la vigilance ou des affaires réglementaires ou du market access, vous pouvez travailler pour les agences, donc ANSM, OMS, EMA, donc c'est l'Agence européenne du médicament. Donc ça, c'est hyper intéressant, quoi. Vous pouvez faire du privé, du public. Vous pouvez même faire de la santé publique aussi. D'ailleurs, on manque de pharmaciens en santé publique, donc et de représentants aussi. Dans les ministères. Vous pouvez même travailler dans les ministères, quoi. Enfin, c'est infini ce métier. Vraiment, c'est infini. Vous pouvez tout faire. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà là. Je vous ai peut-être assommé là, non ? Est-ce qu'il y en a qui veulent faire officine ? Ah, ok. Bon, on va parler un peu de l'officine du coup. Donc, moi, comme je vous disais, j'étais en indus de base, mais là, j'exerce en officine. Donc déjà, je vais vous parler un peu du contexte de l'officine. Je pense que vous connaissez, vous savez, il y a une énorme pénurie de pharmaciens et de préparateurs. Donc ça fait déjà quelques années, mais c'est encore pire depuis le Covid, quoi. Ça s'est encore accéléré, même si c'était déjà le cas avant. C'est compliqué du coup sur le terrain parce qu'on fonctionne en flux tendu, clairement. Quasiment toutes les officines partout en France sont en sous-effectif. Mais ça a amené quand même une revalorisation énorme des salaires, que ce soit pour les pharmaciens ou les préparateurs. Donc on a vu aussi beaucoup d'intérim qui s'est développé parce que pas assez de pharmaciens. Donc les salaires, clairement, ils se sont envolés et ils font que, enfin, ça fait que, enfin voilà, moi quand j'ai quitté Paris là, les boîtes d'intérim c'était du 30 euros de l'heure pour un pharmacien. Là, c'est passé à 34. Donc après, bon. ça soulève des questions quand même, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça indéfiniment. Surtout que vous savez, la Sécu, je crois que c'était, je ne sais plus le déficit de la Sécu, mais c'est colossal, quoi. Donc ça soulève question quand même, parce que c'est quand même la Sécu qui paye les officines, etc. Donc à mon avis, ça ne va pas pouvoir continuer jusqu'au soleil, mais bon, enfin voilà, quoi. Les salaires ont été vachement revalorisés. Et sinon, sans parler de salaire aussi, on voit aussi une grosse évolution de notre profession au niveau de toutes les nouvelles missions. Donc ça, c'est hyper stimulant en tant que jeune professionnel. Et donc après, moi, j'ai une vision un petit peu particulière de l'officine. Enfin, j'exerce pas comme la plupart des gens qui se posent en CDI et qui restent dans la même pharma. Parce que moi, ça, je pense que c'est la meilleure façon de rester en zone de confort et après de plus trouver de plaisir dans son métier. Donc moi, je bouge beaucoup. J'ai fait beaucoup d'intérim quand j'étais à Paris, sur Lyon. Donc en fait, l'intérim, je vous conseille vraiment si vous voulez faire de l'officine, même si vous n'êtes pas en filière officine. Je sais qu'à Châtelet, vous travaillez beaucoup en pharma. Je vous conseille de faire de l'officine parce que ça permet de voir énormément de pratiques différentes, de voir des plus grosses pharma, des plus petites pharma. Vous devenez un couteau suisse. En plus, après, vous connaissez tous les logiciels. Vous arrivez dans n'importe quel pharma, en 5 minutes, vous avez tout compris en fait. Comment ça marche, comment est la patientèle, etc. Enfin, c'est un booster énorme. Et en plus, vous êtes à l'aise dans toutes les situations parce que vous avez tout vu. Enfin, moi, j'ai exercé aussi bien à Porte de la Chapelle qu'à Neuilly, quoi. Donc, j'ai été dans des pharmacies où on délivre 15 stupéfiants à la journée et d'autres où il y a zéro stup, quoi. Ou par contre, il y a des gens qui ont des sous, donc qui vont beaucoup plus écouter le conseil. Donc voilà, la pratique de l'officine est complètement différente aussi en fonction de où vous êtes et dans la pharmacie dans laquelle vous êtes. Pareil, si vous êtes en désert médical, il n'y a pas de médecin autour. Donc les gens viennent voir le pharmacien, en fait. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a que ça. Enfin, la pharmacie, vous savez, ça fonctionne en maillage territorial. Donc, il y a des pharmacies partout, quoi. Enfin, donc voilà, quand il n'y a pas de médecin, tout le monde vient voir le pharmacien. Donc, ça peut être hyper intéressant pour vous d'avoir une expérience justement comme ça en désert médical. Et donc, du coup, moi, maintenant, j'exerce en CDD. Donc, je fais des missions courtes et je bouge, je change de pharma. Donc, ça vous permet de voir plein de choses, de voir ce que vous aimez aussi et ce que vous n'aimez pas. Et vous allez voir, il y a des pharmas qui vont être beaucoup plus centrés sur le naturel, d'autres... pas du tout, enfin voilà, ça vous permet de voir plein de choses, la formation elle est infinie. Et une question qu'on m'a posée tout à l'heure, on m'a dit est-ce que t'as pas peur en gros de la redondance de la pharma? Et en fait, moi j'avais un peu cette vision quand j'étais étudiante justement, je me disais waouh, mais en fait je suis en pharma, je suis en 3, je vais continuer à faire ça, ce que je fais là, je vais faire la même chose quand je serai diplômée. Et en fait pas du tout, parce que j'exerce pas du tout comme j'exerçais quand j'étais étudiante. En fait, je trouve que au final, on n'est pas très mature hein, quand on est en études. Alors moi, je vois là, il y a un gros gap depuis que j'ai passé, depuis que je suis passée de l'autre côté, quoi. Et on a tendance aussi à être un peu snob, quoi. Et en fait, vous verrez, mais en fait, vous n'êtes pas du tout le même pharmacien quand vous êtes étudiant ou quand vous arrivez, quand vous avez été diplômé. Moi, j'ai commencé à avoir la passion une fois que je suis sortie des études, parce qu'en fait, c'est juste que le faire tout le temps, tous les jours la même chose, c'est parce que tu l'as décidé en fait. C'est toi qui décides de faire tout le temps la même chose. Mais si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de te former en micronutrition, si tu as envie de te former sur l'aroma, la phyto, si tu as envie de devenir une brute en pharmacie clinique, bah du coup tu te formes et du coup c'est à l'infini en fait en officine. C'est à l'infini. Et surtout que je trouve que tu peux construire ta propre pratique parce que... Il y a des gens qui vont adorer le médicament et qui vont vouloir être à fond là-dessus et développer leur pharma sur la pharmacie clinique et proposer un vrai service de pharmacie clinique. Donc par exemple, faire des tests vérifier la glycémie des patients, leur prendre la tension, faire un vrai service, développer les entretiens pharmaceutiques. Donc il y a des pharmacies qui vont vouloir se mettre là-dessus. Il y a d'autres pharmacies qui vont vouloir être plus axées sur le naturel. Par exemple, à Lyon, il y a une pharmacie, elles font que du naturel. Donc, elles n'ont pas du tout les gammes Aven, Roche, etc. qu'on peut voir dans les pharmas. Elles sont que axées sur le naturel et elles sont spécialisées en micronutrition et en phytothérapie. Et donc, en fait, elles se sont vachement centrées sur les problèmes féminins, donc le syndrome prémenstruel, syndrome des ovaires polykystiques, etc. Elles se sont passionnées pour ça. Et donc, elles font des préparations à l'officine à base de plantes pour soulager tous ces problèmes. Et ça a tellement bien marché que des femmes de tout Lyon venaient, elles ont carrément créé leur marque. Donc ça s'appelle Équilibriste. Donc maintenant, elles ont créé des produits avec des plantes, donc 100% naturel. Donc vous voyez, les affinités changent, vous pouvez développer le naturel à l'officine. Enfin voilà, vous pouvez créer votre propre exercice et faire du bien comme ça, quoi. Donc c'est juste que là, si vous vous dites « je vais faire tout le temps la même chose », c'est juste, je pense, que vous n'avez pas encore la vision. Parce qu'en fait, Moi, je trouve que quand on est étudiant, on est un peu dans le flou, on est dans un brouillard, en fait. Et en fait, plus vous allez acquérir des connaissances, plus vous allez comprendre, plus vous allez exercer en conscience, et plus vous allez vous dire, mais c'est incroyable. Enfin, moi, je vois, j'ai décelé aucune interaction quand j'étais en études. Il y en a tout le temps des interactions, il y a tout le temps des interactions, il y a tout le temps des erreurs de prescription. Et c'est pas pour rien que le pharmacien, il est là. Et moi, je pense que, enfin, voilà, c'est en étant bon aussi que notre rôle, il va prendre plus de place. Et moi, je pense que normalement, ça devrait être le pharmacien qui prescrit. Sauf que c'est à nous de prouver notre, enfin, voilà, notre valeur, quoi. C'est à vous de prouver votre valeur et de créer la pharmacie de demain, quoi. Donc, on y va. Donc voilà, c'est infini, il y a plein de possibilités. Vous pouvez créer votre propre manière d'exercer et l'officine, c'est incroyable. Donc, c'est à vous après de... Mais voilà, vous avez le temps, vous verrez. Et si vous hésitez, je vous conseille quand même de faire une autre filière que l'officine au début, parce que c'est plus facile après de retourner en off. Donc, si vous avez des hésitations, au pire, allez voir autre chose. Et parfois, ça fait du bien de s'aérer, hein. Enfin, moi, je sais que c'est aussi ça aussi qui m'a permis de voir clair. Aérez-vous, changez de trucs, et après, quand vous reviendrez, vous aurez peut-être les idées plus claires. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, donc moi, j'ai fait un... Mais d'ailleurs, ce que je vous dis là, il y a des podcasts, hein, parce que du coup, je ne l'ai pas dit, mais donc j'ai créé le podcast Le Journal du Pharmacien. Et donc, il y a 50 interviews à peu près de pharmaciens de toutes les filières, hein, hôpital, industrie, officine. Donc, si ça vous intéresse, c'est Le Journal du Pharmacien, voilà, si vous avez envie de découvrir un peu plus en profondeur un métier. Et donc, tu m'as... Ah oui, donc j'étais en Indus, et moi, j'étais dans la partie... J'ai fait quelque chose dont je n'ai pas parlé là, les affaires médicales. Donc, c'est un pôle qui est transversal, qui existe, je crois, depuis une quinzaine d'années. Et ça s'est développé... Enfin, c'est un peu quelque chose à la mode. En gros, c'est un pôle qui est un peu à l'interface entre les affaires réglementaires, le marketing, le market access. C'est le pôle qui est responsable de la molécule. En gros, c'est des experts des essais cliniques. Ils doivent connaître par cœur leurs produits et les essais cliniques. Et ils doivent être en capacité d'apporter une réponse aux médecins. Donc, en gros, le marketing, eux, ils ont le droit de faire de la promotion auprès des médecins. Mais comme je vous disais, c'est très réglementé. Et la différence entre le marketing et les affaires réglementaires, c'est que le marketing, il va pouvoir être proactif et aller voir le médecin. Alors que les affaires réglementaires, c'est l'inverse. Eux, ils sont sollicités par le médecin qui a des questions sur une molécule. Donc, ils n'ont pas le droit de faire de promotion, en gros. Eux, ils sont sollicités par les médecins et ils répondent aux questions sur la molécule, sur les essais cliniques. Donc, moi, je faisais des affaires réglementaires. J'étais dans le DM, en plus, moi. Parce que oui, là, je vous ai parlé du médicament, mais il y a tout ce qui est dispositif médical. Je vous dis, c'est infini. Il y a même des gens qui travaillent sur... Enfin, qui vont dans le véto, après. Dans le vétérinaire ou dans la... Vous pouvez travailler dans l'agroalimentaire. Enfin, c'est un truc de fou, pharma. Hein. Vous pouvez tout faire. Si vous êtes curieux... Non, vous ne pouvez pas ne pas vous plaire en pharma, c'est impossible. Il y a trop de possibilités, c'est infini. Vous pouvez même faire des doubles diplômes école de commerce, c'est ce que j'avais fait du coup. J'avais fait un double diplôme à l'EM Lyon. Vous pouvez faire ingé aussi. Enfin, vous pouvez faire pharma ingé. Enfin, et puis au pire, même si ça ne vous plaît pas, il y en a qui après font du marketing, font une école de commerce et restent dans le marketing. Il y en a même qui font de la finance, il y en a qui font du conseil. Enfin, c'est infini. J'en découvre tous les jours. Il y a même possibilité de faire pharmacie police scientifique, j'ai appris. Bon, ça, c'est très rare, hein, par contre. Mais vous pouvez même aller dans la police scientifique, quoi. Enfin, vous pouvez tout faire en tant que pharmacien. Et aussi, je trouve qu'on a une... Enfin, on a des cerveaux qui fonctionnent bien, quoi. on comprend vite les choses, on est polyvalent. Donc, vous pouvez tout faire. Vous retomberez toujours sur vos pattes. Franchement, c'est venu un peu comme ça. En gros, en lisant un livre où il disait que si tu veux avoir de l'impact entre guillemets dans ton industrie et faire des projets qui ont du sens, il fallait déjà faire un réseau, en gros, te construire un réseau. Et donc, je me suis dit, et il parlait justement du podcast, il disait que c'était un bon moyen de commencer à créer un réseau. Et donc, le livre, c'est KPI, c'est Key Person of Influence. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un podcast. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à raconter? Moi, en tant qu'étudiante, je ne sais rien, qu'est-ce que j'ai à dire? Et en fait, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire parler des gens, je vais interviewer des pharmaciens. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Puis après, c'est devenu une passion parce que du coup, tu discutes avec des professionnels qui ont de l'expérience et ça a beaucoup de valeur. Discuter avec les anciens, ça apporte beaucoup parce qu'ils ont toute une carrière derrière eux. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils peuvent vous faire, ils peuvent vous dire comment étaient les choses aussi, par exemple, il y a 20 ans. Donc ça, c'est très important. ne négligez pas ça. Donc voilà, du coup, c'est ça, ça t'enrichit tous les jours. J'apprends tous les jours, j'apprends tous les jours. Donc ça. Et c'est ça aussi, c'est qu'en études, on a une quantité tellement importante d'informations à engranger en 6 ans qu'on est assommé, quoi. On est assommé, mais il faut passer par là à la fois. Donc, mais quand vous avez fini ça, vous pouvez sélectionner ce qui vous intéresse, du coup. Et donc là, ça devient sympa. En fait, je dirais, les études, c'est un peu comme une caisse à outils, quoi. Ça va vous donner plein d'outils qui vont vous permettre de comprendre plein de choses. Et après, vous allez pouvoir sélectionner l'outil que vous voulez aller creuser. Voilà. Je suis passée en officine parce que, je me retrouvais pas en industrie, ça me correspondait pas, parce que c'est quand même beaucoup administratif, donc t'es beaucoup derrière ton ordinateur, et en fait, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas. L'officine, ça correspond complètement à mes valeurs, qui j'ai envie d'être, qui je suis. Donc ça aussi, je pense que c'est des questions importantes à vous poser pour choisir la filière, mais surtout pour choisir votre métier plus tard, c'est... quelle vie vous avez envie d'avoir ? Parce que ça aussi, c'est important. Vous n'allez pas avoir la même vie si vous travaillez en officine ou en industrie. Parce que comme je vous disais, en officine, là, avec les CDD, etc., il y a des opportunités pour vraiment choisir un peu votre emploi du temps. Moi, je sais que, par exemple, je travaille 3 jours par semaine, en fait. Et à côté, je fais mon podcast et j'ai d'autres projets, en fait. Et donc ça, c'est possible parce que je suis en officine. Et le Tour de France que j'ai fait, c'est aussi possible parce que j'étais en officine, en CDD. J'ai calculé exprès pour pouvoir arrêter mon CDD, pouvoir partir en Tour de France. En Indus, j'aurais pas dit « Salut les gars, je m'en vais 3 mois ». Enfin, c'est possible dans les grosses entreprises de faire ça. Mais ça aurait été moins facile, quoi. Là, je peux choisir mon emploi du temps. Je peux dire « je suis disponible 3 jours ». Je peux faire des contrats courts. Donc ça veut dire qu'à la fin de mon contrat, si j'ai envie, je peux m'arrêter. Comme je vous ai dit, les salaires, ils ont explosé, donc on peut avoir un confort de vie. En plus, moi, maintenant, je suis partie en province, donc du coup, le confort de vie, il est bien meilleur. À Paris, c'est compliqué. Hein. Enfin, même avec un salaire élevé, c'est très, très compliqué d'être à l'aise. Hein. Alors qu'en province, les salaires, ils sont élevés aussi, parce que du coup, sinon, ils ne trouvent personne. Donc, vous avez le même salaire qu'à Paris, mais avec des loyers qui sont beaucoup moins chers. Donc, hyper intéressant. Qualité de vie aussi incroyable. Donc voilà, du coup, ça allie tout, quoi. Ma soif d'apprendre, mon envie d'avoir de l'impact, parce qu'à la base, quand même, si j'ai fait des études de santé, c'était quand même pour avoir un impact sur la vie des gens, quoi, apporter du mieux-être. Donc ça coche toutes les cases, quoi. Apprentissage, faire du bien, gagner quand même un salaire confortable, et en plus pouvoir parcourir la France grâce à mon métier, du coup, parce que je déménage tout le temps. Donc c'est incroyable. C'est l'officine incroyable. Et donc, on ne se rend pas forcément compte de ça quand on est étudiant, mais voilà, il faut se poser cette question de savoir quel style de vie vous voulez avoir, quel type d'emploi du temps, parce que quand vous êtes en Indus, globalement, en fait, en gros, l'industrie, ça fonctionne comme à la fac. Vous avez des gens qui bossent comme des brutes et d'autres qui font rien. Donc, si vous voulez monter, si vous voulez avoir des postes à responsabilité, vous allez être dans la case de ceux qui charbonnent, en fait, et qui travaillent 60 heures par semaine, voire plus. Donc, si vous voulez monter en grade, vous allez... En plus, il y a beaucoup de pression, quand même, en industrie. Donc, va falloir beaucoup travailler, avoir de la pression, parce qu'après, quand vous êtes manager, vous devez gérer des gens. Ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, hein, de manager des gens. Moi, ça me correspondait pas, quoi. Moi, je veux... En plus... Quand tu es en CDD, en officine, du coup, j'avoue, tu as un peu que les bons côtés, tu vois. Genre, tu as moins de responsabilité. Enfin, tu as une grosse responsabilité qui est ta responsabilité envers les patients. Mais du coup, par exemple, tu vas. J'ai pas de responsabilité. Par exemple, en officine, c'est normalement, tu gères des marques. Tu as ton labo attitré, tu vas gérer Aven, tu vas gérer Roche. Je fuis ça. Donc, mais après, peut-être, ce sera pour plus tard, tu vois. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est les patients surtout. Donc, ça me permet aussi de me concentrer sur ça, quoi. Sur les patients. Donc voilà, du coup, c'est important, je pense, de se poser la question de quel style de vie vous voulez, combien d'heures vous voulez travailler, dans quelles conditions, et aussi où est-ce que vous voulez être en localisation, quoi. Ça rentre vachement en compte, c'est pas que qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est aussi comment j'ai envie de le faire, quoi. Donc voilà. Ah, c'est KPI. KPI, donc ça s'appelle Key Person of Influence. Donc, tu sais, c'est en anglais. Ouais, par contre, c'est en anglais. En anglais aussi, la base. Hein. Surtout si vous voulez faire Indus, c'est la base, l'anglais. Hein. Attention. Voilà. Léane, t'as pas une petite question? Sur l'œuf, non? Sur l'œuf, je sais pas, si tu voulais en savoir plus. Ou l'hôpital. Hein.
En
Je sais pas. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais tu vois, avant, je disais, je ferai jamais off. Tu vois, je disais, j'irai jamais en officine. Et au final, je suis en officine et je suis plus passionnée que jamais. Donc, je sais pas. Mais là, les freins que je pourrais voir à l'installation, c'est cette pénurie. Tu vois, la pénurie de pharmaciens préparateurs. Quoique, en vrai, si tu payes, tu trouves. Mais il faut avoir la possibilité de payer, quoi. Donc, c'est pas toutes les pharmacies qui peuvent se permettre de lâcher les salaires qui sont aujourd'hui. Donc, ce serait ça les freins, quoi. La pénurie et aussi gérer des trucs que j'ai pas envie de gérer, genre la compta. Enfin, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les patients en soi, tu vois. Le management d'équipe, tous ces trucs, ces lourdeurs. Je suis pas prête pour ça pour l'instant. Donc, déjà, si je m'installais, je pense que ce serait en association. Puis même, je te dis, pour l'instant, j'ai envie de profiter, j'ai envie de voir plein de choses. Comme je te disais, t'as l'opportunité aussi d'aller dans des déserts médicaux, tout ça. J'ai envie de voir plein de choses et après, on verra. On verra. Voilà. Oui. Ouais, j'aimerais bien aller voir aussi un peu ailleurs. Donc dans les DOM. Mais il y a la Suisse aussi. Tu peux aller très facilement en Suisse. Donc c'est ça aussi qui est incroyable, c'est que vous pouvez aussi aller en Europe. Hein. Votre diplôme, il est valable en Europe. Donc dans les DOM, c'est la facilité parce que c'est la France. Donc tu peux aller très facilement exercer dans les DOM. D'ailleurs, il y a un podcast, si vous voulez écouter, Mathieu Desnoual. Lui, il a été à La Réunion et là, il est en Nouvelle-Calédonie. Donc incroyable, quoi. Enfin, il vit sa best life. Je vous dis, c'est incroyable. Tu vis tes rêves, quoi. Tu vis ta vie en même temps que t'exerces. Moi, j'ai même pas l'impression de travailler. En fait, je suis tellement passionnée que j'ai même pas l'impression de travailler quand je suis à l'officine. Ouais, tu peux aller dans les DOM et en plus, ton diplôme, il est reconnu en Europe. Donc la Suisse, c'est facile parce que c'est juste à côté. Donc voilà, c'est ça aussi qui est incroyable. C'est magnifique, meilleur métier du monde. Bah c'est ça, c'est être en contact avec les patients. Ah moi, mais phyto-aroma, micronutrition, tout ça, toutes les pratiques naturelles en gros. Donc phyto-aroma, mais phyto-aroma c'est un peu la même chose quoi, c'est les plantes en gros et la micronutrition. Mais je suis intéressée aussi par le médicament. Enfin, tu vois, moi, j'ai du mal à me fixer. J'aime tout. J'aime tout. J'ai du mal à me fixer. Donc, c'est infini. Tu peux tout faire en off. Mais plus pratique naturelle, quand même. Donc, voilà. Je sais pas, là, je... Ah ouais, purée, ça a été rapide. Hein. J'ai pris le TGV. Bah, voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et puis après, sinon, ouais, vous pouvez écouter le podcast. Hein, si vous voulez en savoir plus sur un métier, il y a plein de podcasts dispo. Même vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème quoi. Donc, voilà. Merci.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Tu peux retrouver cet épisode en format vidéo sur la chaîne YouTube Le Journal du Pharmacien. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager et à nous laisser un petit commentaire. Tu peux aussi nous écrire un message via la page Instagram du podcast @lejournaldupharmacien et nous te répondrons avec plaisir. À bientôt sur Le Journal du Pharmacien.